Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout premier podcast Les Antipodes de la lutte avec Pat Laprade, K.R., Kevin, Raphaël.
Hey, on est rendu avec un podcast, j'en reviens pas.
J'en reviens pas moi non plus.
We made it!
On est finalement rendu là, Kevin.
Ouais.
Quelle expérience que ça va être, toi pis moi.
Ouais.
À chaque deux semaines, on va venir parler de lutte pour nos fans.
Ben, c'est pas juste on va venir parler de lutte. Le show s'appelle Les Antipodes parce que les gens qui nous connaissent savent que on a tendance à s'ostiner de temps en temps.
J'ai aucune idée de quoi tu parles.
Ouais, mais c'est parce que toi, t'es vieux, puis moi, je suis plus jeune, puis le choc des générations, ça fait en sorte que parfois, dans les sujets chauds de la lutte, on s'ostine, et je pense que ça va être ça, Les Antipodes. Ça va être un show le fun, puis je vous... Hey, allez sur iTunes, Spotify, Google, écoutez-le dans le métro, écoutez-le dans votre char, à cachette au travail. Mettez-nous 5 étoiles, laissez-nous des commentaires. On a hâte de vous entendre.
Suivez-nous évidemment aussi sur nos réseaux sociaux, Pat Laprade et Kevin Raphaël 21 sur Twitter et Instagram. Mais écoute, moi je pense, Kevin, tu disais que c'était la différence d'âge. Moi je pense que c'est les connaissances, la différence. Parce que bon, pour ceux qui me connaissent peut-être un peu moins, je suis historien de la lutte au Québec. Je suis auteur de plusieurs livres. Un livre sur l'histoire de la lutte au Québec, la biographie de Doc Vachon. J'ai participé au documentaire à HBO sur Andre the Giant.
Qui était malade. Les 15 premières minutes, tout le monde, là, c'est le Pat Laprade Show. Moi, je vais toujours me rappeler, on est à LA et moi, je suis le plus un. J'ai jamais été un plus un. Je suis le plus un de Pat Laprade.
Damn right.
Et je suis sur le tapis rouge. Je passe en premier. J'ai une coupe de photos. Pat, il passe et clic. On aurait dit Madonna, man. Ça avait aucun bon sens. Et je regardais le documentaire et les 15 premières minutes, c'est Pat Laprade. Donc, on est vraiment choyé de l'avoir sur le podcast.
Puis, c'est important aussi, Kevin, de mentionner, c'est qu'on est aussi, évidemment, commentateur à TVA Sports,
yes.
À Raw,
yes.
Tous les mercredis soirs, mais là, on, ça sera pas nos personnages
non.
De commentateurs, parce que, veux, veux pas, quand on commente, il faut un peu embarquer dans l'histoire qu'on nous présente, faut être un personnage de l'émission que vous voyez,
faut faire partie du show.
Et là, c'est pas le cas, là. On va vous parler d'actualité, on va vous parler de la business de la lutte professionnelle.
Ouais, de ce qui se passe partout à travers le
ben
monde.
Oui.
Oui, on est commentateur pour la WWE, mais on l'écoute New Japan Pro Wrestling, on l'écoute ROH, on a hâte d'écouter AEW, donc t'écoutes ce podcast-là. Puis la lutte québécoise, Pat,
ben
man,
oui.
Moi j'ai hâte que tu me présentes tout ça.
ben oui, puis on va vous parler de plein de nouvelles en lien avec ça. Puis justement, ben Kevin, qu'est-ce que t'en dirais si on commençait...
Les nouvelles! La première nouvelle, malheureusement, c'est une nouvelle qui est un petit peu triste. Le décès du légendaire King Kong Bundy qui est intronisé au Temple de la Renommée. On connaît King Kong pour avoir affronté...
Qui est pas au Temple de la Renommée.
Excuse-moi, c'est
qui
vrai.
Il est pas au Temple de la Renommée.
Oui, mais
bon,
j'ai les contacts.
Quand je parlais de manque de connaissances...
Laisse-moi tranquille. Okay, commence pas. Laisse-moi tranquille. Il est pas au Temple de la Renommée, mais il a quand même été main event de WrestleMania avec Hulk Hogan. So, laisse-moi tranquille.
Absolument. Non, pour vrai, King Kong Bundy, ça a été... la nouvelle a fait vraiment le tour de l'Amérique.
Hey, man.
Tous les journaux, stations de télé ont parlé du décès de King Kong Bundy. Il y avait vraiment une... Pour ceux qui le connaissent pas, là, allez sur Google, il y avait vraiment un physique qui était complètement différent des autres. 6 pieds 4, 460 livres, chauve, assez gros, veut pas. Donc, c'est un physique qu'on se souvient. Puis, c'est justement ce physique-là qu'ils ont utilisé pour builder WrestleMania 2 en 1986, alors qu'il avait attaqué Hulk Hogan dans les semaines qui avaient précédé WrestleMania. Et Hulk Hogan est arrivé avec ses bandages autour là, de la taille et tout ça. Puis ça avait été un match de cage, WrestleMania 2, qui est présenté dans trois villes différentes, Chicago, New York et LA. Et puis,
ça, c'est Pat Laprade. Il faut qu'il te montre qu'il connaît tout. Il y a dans trois villes différentes. Man, fais juste nous dire à quel point il était bon King Kong.
Faut que je compense pour toi, mon cher Kevin.
Ça,
mais pour vrai, King Kong Bundy, ce qui est intéressant aussi, il y avait une gimmick où ce que, tu sais, habituellement, un tombé, c'est 1, 2, 3,
oui,
c'est fini.
King Kong, c'était
lui,
5.
C'était 5.
C'est vrai.
Lui, il détruisait tellement ses adversaires qu'il voulait que l'arbitre compte deux fois de plus. Ouais. Et des fois, ça lui jouait des tours. Ouais. Parce que je me souviens de John Cardock, je crois, qui avait kické out à 4.
Ouais. Ouais.
C'était King ça un peu Kong la gimmick. Bundy. Puis à WrestleMania 3, King Kong Bundy a un lien avec le Québec. Il y a eu un match 3 contre 3. Lui et deux lutteurs nains contre Hillbilly Jim et deux autres lutteurs nains, dont Little Beaver, qui est un Québécois, Lionel Giroux, un des lutteurs nains les plus connus au monde là, de l'histoire.
Hey, ça fait 5 minutes qu'on a commencé puis on a déjà parlé de lutte nain. Moi, je suis content.
Et Little Beaver, les nains étaient reconnus, les lutteurs nains étaient reconnus pour être un peu, des fois, bon, un peu plus agaçants. Ils aimaient ça, jouer des ribs, jouer des tours et tout ça. Et durant le match, Little Beaver donnait des coups de mocassin, ses mollets, à King Kong Bundy, mais des vrais coups de mollets. De mocassin, puis là, ça le gossait Bundy, puis à un moment donné, il s'est venu le chercher, puis il était un peu plus stiff avec Beaver, et pour vrai, Beaver a arrêté de lutter après, il était déjà rendu à un certain âge, mais pour vrai, il a été blessé, et il a plus jamais lutté, et Bundy l'a toujours regretté, il a toujours espéré que ce soit pas à cause de ça, qu'il soit décédé, puis ça avait rien à voir, il est décédé d'emphysème, le Beaver. Là.
Fait que ce que tu me dis, là, c'est cheminée. Que King Kong Bundy a mis fin à la carrière de lutteur nain.
Oui, exactement, de Little Beaver,
Prochaine nouvelle, WrestleMania 36 sera au Raymond Jones Stadium à Tampa. C'est où que les Buccaneers de Tampa Bay, juste au football, Pat, c'est où que les Buccaneers de Tampa Bay jouent. Donc, WrestleMania 36 l'année prochaine. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, on va être là.
Ben oui, on va être là,
la fleurie, c'est toujours le fun. C'est tombé, ça vient tout juste de tomber, cette nouvelle-là, puis c'est vraiment, vraiment cool. La Floride, la dernière fois, c'était il y a 2 ans, Orlando, 2017.
C'était malade, Orlando, le Orange... Orange Stadium, Orange Bowl, whatever le nom, là, c'était... moi, quand je vais à WrestleMania, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est la structure, le setup. Ouais. Il fait pas de sens. Il y avait un roller coaster à Orlando. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à New York cette année, puis à Tampa. J'ai hâte de voir.
Puis ce qui est le fun, parce que la ville devient WWE pendant une semaine. Tu sors à l'aéroport et tu vois déjà des posters, des affiches. C'est vraiment partout. Et Tampa, je sais pas si t'as déjà eu la chance d'y aller, mais c'est très beau.
Non,
là,
mais
sur,
mon boy Mathieu Joseph, il joue sur Ça se peut qu'on couche chez eux.
Oh, c'est nice.
Il sait pas encore parce que la nouvelle est tombée, puis on en a parlé tout de suite. Fait, je vais le texter. Et on va coucher chez. Si vous voulez venir à WrestleMania, party, c'est Mathieu Joseph des Tampa Bay Lightning.
Tu vois, ça fait pas 5 minutes, Kevin, on a commencé. Tu plugues déjà tes amis vedettes.
Je vais les plugger toutes, man. Je vais toutes les plugger.
Mais ce qui est intéressant aussi de Tampa, c'est pas loin d'Orlando.
Ouais.
Et donc, comme il y a 2 ans, ben il y a les tapings d'NXT habituellement qui ont lieu le mercredi. Fait que, c'est vraiment une grosse semaine là, qui va être intéressante à être.
Parlant d'NXT, Tommaso Ciampa est blessé au cou. Il va se faire opérer dans les prochaines semaines, les prochains jours, selon Wrestling Observer. Puis, dans le fond, tu vas pouvoir mieux me l'expliquer. Là, on parle peut-être d'une absence de 6 à 14 mois.
Oui, ben en fait, c'est Dave Meltzer qui a rapporté la nouvelle mercredi matin. Tommaso Ciampa, si vous vous demandiez pourquoi on le voyait plus, il avait commencé à faire ses débuts à Raw avec Johnny Gargano, champion d'NXT, puis là, on le voyait pas depuis quelques semaines. Ben il y a une blessure au cou qu'il pensait être capable de toffer, en fait, jusqu'à WrestleMania. Parce que, bon, ça vient changer les plans, là, cette blessure-là.
Ça change tout, là.
Parce que NXT TakeOver à New York, la veille de WrestleMania.
Le main event, c'était Tommaso Ciampa.
Deux jours avant WrestleMania, plutôt, le main event, c'était Gargano Ciampa. Ouais. Et là, ben, ça n'aura pas lieu. Gargano Ciampa, il y avait également un gros rôle à Raw en équipe. Ça allait bien leur chose. Et là, ben, on parle d'une absence parce que, bon, les différences de nouvelles ont rapporté entre 6 et 14 mois. Dans le fond, ce que Dave Meltzer a expliqué, c'est habituellement une blessure au cou, tout dépendamment du type de blessure et de la gravité de la blessure, va faire en sorte qu'on parle d'une absence de 6 à 14 mois. Le range est quand même assez grand. Ça dépend vraiment du type et de la gravité de la blessure.
Je trouve ça tellement plate pour Tommaso Ciampa qui est revenu d'une grosse blessure au genou. Et là, moi, là, sa précieuse, là, comment il tient sa ceinture, comment il a fait en sorte que le titre de NXT, il a élevé ce titre-là, selon moi. Il était au top de sa game. Il arrive à Raw et là, il y a cette bad luck-là.
Ben oui, surtout à un moment où tu sais,
il y a son push, là.
On s'attendait pas à ce que ces gars-là, Ricochet, Black, Gargano, Ciampa, montent sur le main roster. Et là, ils sont là, puis bang, il arrive une blessure, puis tu sais jamais, regarde Finn Balor, après sa victoire victoire pour le championnat universel. Il s'est blessé dans le match, puis il est plus jamais revenu à ce niveau-là par la suite. Donc, tu sais jamais une blessure, ce que ça peut donner, le mal que ça peut faire à une carrière.
Le mal que ça peut faire à une carrière, on pense à Paige, qu'elle a plus de carrière, elle a 24 ans, puis c'est terminé. On pense à...
Ah, mais là, tu parles de blessure au cou, particulièrement. Ben,
là, on parle de Stone Cold Steve Austin, qui a eu sa carrière écourtée.
Sting.
On parle de Edge. Donc, tu sais, c'est pas le premier qui va faire face à ce défi-là, et on souhaite toute la chance du monde à Tommaso Ciampa.
Tu peux pas prendre de chance avec le coup, là,
fois. Puis WWE prennent plus de chance.
Un mauvais bump, puis tu peux rester là, carrément. Là. Donc, c'est vraiment sérieux. Donc, on va lui souhaiter un prompt rétablissement.
Autre grosse nouvelle, plus de peur que de mal pour Asuka, qui est la championne féminine de SmackDown.
Je suis un peu déçu que même en podcast, t'es pas plus capable de dire ce nom-là.
D'où son nom, c'est Asuka. Laisse-moi tranquille.
Il y a pas de maison là-dedans. C'est pas Asuka, c'est Asuka. C'est Asuka. Bon. Mais c'est pas grave.
Pendant un house show, Asuka se battait contre Mandy Rose. Et dans le fond, Mandy Rose aurait échappé Asuka sur la tête. Elle aurait eu les premiers oui-dire étaient une blessure au cou ou une commotion cérébrale. Mais Asuka est allée sur Twitter rapidement. On sait qu'elle a de la misère à parler en anglais, mais elle est capable de tout nous expliquer en anglais qu'il faut pas s'inquiéter. C'est plus le dos que le cou, puis que tout va bien. Il n'y a pas de commotion cérébrale.
Ben, tant mieux. Mais par contre, tu vois, on a quand même été
prudent.
On a été prudent avec elle cette semaine à SmackDown, et puis on lui a pas fait prendre de bump. Et puis tant mieux, je veux dire, le but c'est qu'elle soit en forme pour WrestleMania.
Puis moi, cette nouvelle là, ce qu'elle m'explique, c'est que la WWE, ils n'ont plus peur d'arrêter des matchs. On se rappelle tous que Triple H, il s'était éclaté le quad, puis il avait continué le match, puis c'est légendaire. Mais là, c'est terminé.
Daniel Bryan avait été vraiment un beau maudit contre Triple H, justement à cause de ça. Là, t'sais, donc, ils n'ont plus peur d'arrêter les matchs. Et tout ce qui est coup, blessure à la tête, blessure au cou, ils prennent plus de chance. Puis c'est tant mieux. À la monnaie, faut arriver en 2019. C'est une bonne nouvelle qu'on protège ces athlètes-là, parce que la lutte demande que ces athlètes-là soient justement de plus en plus athlétiques, haute voltige,
qui prennent des plus gros risques,
des manœuvres qui sont plus risquées. À un moment donné, faut les protéger.
Maintenant, moi, c'est pas le genre de nouvelles que j'aime jaser, mais tu sais, on a dit qu'on allait parler des dessous de la lutte, puis on va le faire. Il y a eu le renvoi de la légende Arn Anderson, et là, on semble avoir un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé. Raj Giri de Wrestling Inc. rapporte que dans le fond, c'est une accumulation de plusieurs choses, mais que la goutte qui aurait fait déborder le vase, c'est que Arn aurait laissé Alicia Fox performer en état d'ébriété lors d'un live event. La dernière fois que Fox a performé, c'était le 10 février dernier, donc on peut penser que c'est arrivé le 10 février dernier au Michigan. Puis depuis ce temps-là, Alicia Fox a mis des posts sur Instagram disant qu'elle allait combattre ses démons, etc., etc. Maintenant, toi, Pat, qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle-là et à quel point ça va affecter ce qui se passe à WWE? Il est là depuis plus de 20 ans, là.
Ah, il est là depuis, en fait, un peu moins de 20 ans, depuis l'achat de la WCW. Il a commencé en 2002 avec la WWE. Arn Anderson est une des bonnes têtes de lutte dans l'organisation. Ouais. Mais il faisait pas l'unanimité. C'était quelqu'un qui était capable. Okay. Moi j'ai déjà parlé à des lutteurs de la WWE. Arn Anderson, il était pas capable. Même des fois les raisons pour lesquelles ils ont quitté la WWE. Ouais. Mais par contre, c'était le gars qui préparait pendant longtemps, là, qui préparait les segments qui travaillait avec John Cena.
Okay.
Il a longtemps travaillé avec John Cena en coulisses, en arrière-scène. Même certains se disaient que si John Cena était là couramment présentement, peut-être que Arn Anderson n'aurait pas été renvoyé.
Okay.
Il y avait ses pour, il y avait ses contre, il y avait des gens qui l'adoraient, il y en a d'autres qui le détestaient, mais Arn Anderson, d'après moi, il restera pas sur le chômage longtemps.
Non.
Cody Rhodes d'ailleurs sur les internets a déjà mentionné que Arn Anderson était une tête de lutte incroyable, et on voit le lien facile Dusty Rhodes, Arn Anderson, toute la vieille gang, la NWA des années 80. Donc il serait pas surprenant là, de le voir de le revoir en arrière-scène dans une promotion là, très bientôt.
Depuis tantôt, tu sais, nous, on a le podcast des Antipodes de la lutte, on a une liste de nouvelles. Et cette nouvelle-là, j'essaie de pas en parler. J'essaie de l'éviter. Mais là, on est rendu. Tori Wilson. Oh oui, Tori, la madame blonde là, qui se promenait avec un chien. Tori Wilson a été annoncée pour le Hall of Fame, le temple de la renommée de la WWE. Comme, guys, qu'est-ce qui se passe?
Écoute,
Tori... Là, si tu me dis qu'elle a sa place là, Pat, je vais commencer à être huile. Comme pour vrai, j'ai pas besoin de ça. Là.
Tori Wilson, OK, je peux justifier le choix de Tori Wilson.
Hey, man, les antipodes de la lutte, vas-y.
OK. Tori Wilson est une personnalité qui a réussi à transcender le monde de la lutte professionnelle. Sa relation avec A-Rod, avec Alex Rodriguez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un joueur de baseball.
Il y a juste toi qui ne savais pas.
Multimillionnaire. et elle a sorti avec pendant un certain temps. Elle a fait plein d'émissions de télévision. Elle a vraiment réussi à devenir une personnalité beaucoup plus connue que bien des gars et des filles qui ont été nommées au Hall of Fame. Bon. Là, Kevin, t'es de mauvaise foi de me tuer de cette façon-là.
Non, non, mais je m'en fous de ce que tu me parles qu'elle a fait à l'extérieur. Quand son vidéo package là, pour faire l'annonce, il y avait 3 moves de lutte dedans. C'était des entrées puis des photos de modèles.
Tori Wilson, oui, mais qui dit qu'il faut absolument avoir lutté? Il y a des gérants. Qui sont dans le Hall of Fame.
OK, so Tori Wilson... Non.
Il y a des valets qui peuvent être au Hall of Fame.
Mais Tori Wilson, c'est pas un valet qui devrait être dans le Hall of Fame.
Tori Wilson a été vu par des millions de personnes à une époque où tout le monde écoutait la lutte.
Oh, l'attitude era, là.
C'est l'attitude era. Tout le monde écoutait la lutte à ce moment-là.
OK, mais mettons tout le monde d'abord. Mettons l'arbitre. Mettons
Coco Beware, au temple de la renommée.
Oui, mais Coco Beware a frappé l'imaginaire de plus de gens que Tori Wilson.
Tori Wilson, à un moment où il y avait des Brian Penny's match, tu vas me dire qu'elle a pas marqué l'imaginaire de plusieurs adolescents qui sont maintenant des adultes, qui peuvent maintenant acheter des billets pour aller voir le Hall of Fame à New York.
Il y a des gens qui vont payer pour aller voir Tori Wilson rentrer dans le temple de la renommée.
J'ai déjà été dans un Comic-Con ou dans un Wrestle-Con. Il y a des gens qui payent pour avoir des photos et des autographes.
Oui, mais eux, c'est des cochons, OK? C'est pas les gens qui vont payer pour aller...
Mélange pas la ferme avec ça. C'est deux choses complètement séparées.
En tout cas, man.
Tori Wilson, c'est une... Elle a pas fait Dancing with the Stars?
Non, elle a pas fait Dancing with the Stars, Tori Wilson.
Je suis pas sûr.
Non, c'était pas Tori Wilson, c'était l'autre qui va rentrer dans la table renommée parce que, je suis. C'est Stacy Keibler.
Ah, Stacy Keibler.
My girl. Elle mérite d'être dans la table renommée.
C'est la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
Même combat.
Non, elle, Stacy Keibler, elle a été manager, elle a fait plusieurs choses.
Tori Wilson aussi.
Même elle a managé son chien.
Elle a plus que managé son chien, bro.
OK.
Bon. Regarde tes classiques. Va sur le WWE Network. Okay. Regarde les Raw des années, fin des années 90, okay. Début 2000. OK. Puis tu m'en reparleras.
À la maison, écrivez-nous sur nos réseaux sociaux @PatLaprade, @KevinRaphael21. Est-ce que vous êtes d'accord que Tori Wilson soit au temple de la renommée de la WWE? Et on finit avec une nouvelle un petit peu triste. On a tous entendu parler cette semaine. L'acteur Luke Perry est décédé. On l'a tous aimé dans 90210. Riverdale, moi j'écoute Riverdale tout le temps. Pis c'est mon
sûr que t'étais pas né pour 90210. T'as pas pu avoir écouté 90210.
Oui, j'ai dit c'était toi. Puis son lien avec la lutte, c'est... En fait, c'est un gros fan de lutte, M. Luke Perry. Et c'est le papa de Jungle Boy Jack Perry qui fait partie de la AEW. Et,
qui est un des prospects là, de la lutte.
Ah, lui, c'est un next one.
Il est très talentueux, ouais. Mais Luke Perry était plus que fan. Il avait été aussi producteur exécutif du documentaire 30 for 30 à ESPN de Ric Flair. Donc, c'était vraiment là, un passionné de lutte. Et son décès, il est mort à quoi? 51 ans,
tout jeune.
Début cinquantaine, donc tout jeune. Il était j'écoute ça. Riverdale, j'écoute ça, j'adore ça.
T'écoutes Riverdale,
je suis un fan d'Archie.
T'écoutes Riverdale?
Je lisais les Archie quand j'étais petit.
C'est ça, tu niaises, man?
Ben non.
Gros, t'écoutes Riverdale?
Allez, se jaser de Riverdale, hors d'onde. Mais,
c'est drôle, il écoute Riverdale, hein?
Certain.
Okay.
Donc, oui, mais une triste nouvelle, Luke Perry. Et, on souhaite que ça affecte pas non plus trop la suite des choses pour Jungle Boy. C'est jamais évident quand tu perds un être proche de cette façon-là.
Mais
donc,
sympathies
à Jungle Boy et toute la famille.
Je pense qu'à AEW, il va être bien entouré, Jungle Boy là-bas, surtout avec Cody Rhodes qui a vécu un peu la même situation dans les dernières années. Donc, on souhaite tout le meilleur des chances.
Et ça laisse deux mois là, avant le premier show d'AEW. Donc, ça laisse.
Bon,
ça laisse
là, fini pour les nouvelles. Un petit recap de Raw et SmackDown. Du côté de Raw, on a vu le retour du Shield. Encore?
Écoute, c'est quoi la troisième fois en un an?
Mais non, mais moi, c'est le fait qu'ils nous vendent que ça va être la dernière fois que le Shield va se réunir à Fastlane. Puis là, on va parler de Fastlane bientôt. Mais, man, OK?
Ils font plus de retours que Kevin Owens dans un McDo. Je veux dire, je comprends pas. J'adore Kevin. J'adore Kevin. Je t'aime, Kevin.
Non, mais je suis tanné des retours du Shield, là.
Mais pour vrai, à un moment donné... Puis, je comprends, là, ils ont essayé vraiment d'y donner une. Tu sais, de justifier le retour parce que on s'entend, la journée de Roman Reigns annonce que
Saint-Lucémie
est revenu, Dean Ambrose turn heel.
Ouais.
Et là, il revient et c'est comme s'il lui en voulait pas. Puis, j'ai aimé qu'on ait essayé d'y aller que, bon, OK, la vie est trop courte, tu sais, t'es mon ami de longue date, je veux que tu sois encore mon ami. Bon, je comprends, mais en même temps, Dean Ambrose s'en va. Et je pense que ça, c'est la raison pour laquelle, parce que bon, on le sait, là, Dean Ambrose finit après WrestleMania, il n'a pas décidé de renouveler son contrat.
Je suis pas sûr qu'il s'en va, moi.
Ah non, il s'en va.
Je serais prêt à mettre un
junior.
À ce jour, il s'en va.
À ce jour, il s'en va.
Aujourd'hui, il s'en va.
Est-ce que là, les gens vont essayer de le faire changer d'idée?
Il y a encore beaucoup de temps, là.
Il y en a un peu moins qu'il y en avait, puis ça fait déjà quoi, un mois et demi, deux mois qu'on a annoncé cette nouvelle-là. Donc, je veux dire, oui, je suis un peu... À un moment donné, je suis un peu tanné. On a fait le tour.
Ronda Rousey n'est plus du côté des gentils.
Oh,
Ronda Rousey qui est allée avec... Moi, premièrement, je vais juste mentionner, Ronda Rousey, ses promos sont pas bonnes. Elle parle trop vite. T'sais, nous, il faut qu'on commente ses promos. Ouais. Quand j'ai vu le segment, là, j'ai dit, mais comment je vais traduire ça? Ronda Rousey est dans une position où... Selon moi, elle devrait pas être là. La seule raison pourquoi elle est là, c'est son star power. Mais ses promos depuis un mois sont pas de calibre avec Charlotte et Becky. Et dans le ring, moi, j'ai pas vu une amélioration de la Ronda Rousey d'aujourd'hui ou la Ronda Rousey qui a affronté Alexa Bliss il y a quelques mois.
Ça, je suis pas à 100% d'accord.
Je vois pas une amélioration.
Dans la reine, elle vend mieux que 90% de ce roster-là.
Ah, je suis pas d'accord, bro.
Ah, ben...
Avant des patates pilées, avant des céleri chez IGA, excuse-moi, là, que 90% où j'ai mal, arrête, là.
Avant très, très bien Ronda Rousey. Ça parle à n'importe qui connaît la lutte.
Pas de ton amour avec Ronda Rousey.
Lâche ton personnage de commentateur qui aime pas Ronda Rousey.
C'est pas mon personnage. Moi, Ronda Rousey, j'ai de la misère. Je trouve que ça a été un ajout important dans le roster de la WWE. L'année passée à WrestleMania, elle a eu le meilleur match avec Triple H, Stephanie, Kurt Angle. Il y a eu le meilleur match à WrestleMania.
Ouais.
Ça, je te le donne. Sauf que il y a pas eu
il y a eu de l'amélioration depuis ce temps-là, il y a eu de l'amélioration jusqu'à tout récemment.
Les derniers mois là.
OK, je t'explique quelque chose. Au niveau des promos, là, c'est pas tout le monde qui aime ces promos. Il y a des promos qui sortent super bien.
Rare.
Dans la même soirée une fois, elle a sorti une mauvaise et une vraiment
bonne.
Très très bonne promo. Elle a un style à elle et ce qu'elle est pas capable de faire Ronda, c'est d'y aller avec le script qu'on lui donne. Mais en même temps, on lui donne un script qui est pas adapté à elle. La WWE a beaucoup de misère à écrire pour les femmes qui sur leur show.
Okay, mais...
Et ils ont beaucoup de misère d'écrire pour Ronda particulièrement.
OK, mais ça change rien
à
mon argument. Non, ça change rien à mon argument.
Si tu donnais de la liberté à Ronda, tu lui donnais pointers. Roman Reigns est le plus bel exemple.
Roman Reigns, oui.
Une promo scriptée, il est probable de la livrer comme il faut.
Je suis d'accord avec toi.
Une promo plus improvisée, naturelle.
Mais ça fait plus longtemps qu'il fait ça que Ronda Rousey.
Ronda Rousey faisait des promos au UFC.
C'est les promos que sa mère a eu fidèle et ligne.
Arrête.
Sa mère qui disait quoi dire, elle répétait. Ronda Rousey n'est pas du même calibre que Charlotte Flair. Elle n'est pas du même...
Elle n'est pas du même calibre que Becky Lynch. Charlotte Flair est une meilleure promo que Ronda Rousey.
De loin.
Je te donne ça aussi.
Mais moi, c'est ça que je dis.
Elle n'est pas mauvaise.
Ah, man, en tout cas.
Elle n'est pas mauvaise. Elle fait des bonnes promos, mais je suis d'accord que depuis quelques semaines, on le sent moins, ces promos. Il y a quelque chose... qu'elle a de la misère à livrer dans ce qu'on lui donne comme texte.
Je vais te poser une question. C'est quoi son personnage? La femme la plus redoutable au monde? La femme qui donne la ceinture à Stéphanie parce qu'elle veut rajouter Becky? Puis après ça, finalement, je voulais pas vraiment t'adonner.
Mais ça, c'est pas Ronda le problème. C'est le booking, le problème.
Je sais que c'est le booking.
Puis regarde, une plus belle preuve du booking, c'est qu'on s'entend qu'elle a magané le bras à Becky Lynch.
Puis le lendemain, elle était à SmackDown.
Le lendemain, Becky Lynch est à SmackDown, puis elle s'est appuyée sur son bras à un moment donné pour vendre son genou puis se lever dans le ring. écoute, tu viens de te faire donner un plusieurs hamburgers par la reine des hamburgers, puis ils ont même pas donné un mini cast, un mini plate ou n'importe quoi, là, un attel au bras.
Je suis d'accord, mais donné, au bout de la ligne,
faut que tu l'habilles là, ton show.
Au bout de la ligne, le storyline n'est pas bon pour Becky, le storyline n'est pas bon pour Charlotte, le storyline n'est pas bon pour Ronda.
Le storyline avait tellement bien parti en plus. Et là, moi, je trouve que où ce qu'ils ont manqué leur shot, c'est quand ils ont décidé de plus booker Becky Lynch comme Stone Cold.
C'est ça.
La journée que Becky s'est excusée à Triple H, à Stephanie, c'était fini. Elle est en prison. Elle n'est pas sortie de prison pour venir intervenir à la fin. On a gardé ça pour Batista. Ça, c'était des traits que Stone Cold, on lui aurait donné ces épisodes-là. Et si tu remarques, Becky, elle a un super bon pop. C'est le plus gros pop du show, mais c'est pas un aussi gros pop que c'était il y a un mois.
Rapidement, le highlight de Raw, pour toi, tu me diras c'est quoi, mais moi, c'est Elias. Elias, à chaque semaine, ce gars-là, il a juste besoin d'amener sa guitare. Je veux même pas le voir se battre. Je veux pas qu'il se batte, je veux juste qu'il chante des chansons. Le crack qu'il a fait sur Gritty, la ville de Philadelphie, ce gars-là, c'est une machine. En tout cas, moi, je veux qu'on lui donne un petit peu plus de place. J'aime que maintenant, avant qu'il y ait une pause publicitaire, on le voit dans le ring, il joue un petit accord de guitare, puis après ça, il y a la pause, et après ça, ils reviennent en onde avec Elias. Moi, ça fait en sorte que j'écoute la pause, parce que je vais être sûr de pas manquer Elias. Donc,
moi, c'est pas un malaise, c'est plus un gros questionnement. Ricochet, okay. Aleister Black.
Ouais, je sais pourquoi.
Et ils vont pas ensemble.
Ouais, mais Aleister Black, là, c'est Undertaker.
C'est deux gars d'NXT, c'est tout ce qui les lie.
Ouais.
Et tu sais, j'imagine qu'on va peut-être même leur donner les ceintures bientôt, là, mais en même temps. Ah, ils vont pas. Tu sais, Gargano Ciampa, là, tu sais, c'est DIY, ça va de soi. Eux autres, je le sens pas.
Là, j'ai dit que c'était Undertaker et Aleister Black parce que je trouve que le personnage d'Aleister Black peut ou pourrait être aussi badass. Ça serait logique qu'il aille une série de victoires comme Undertaker. Il est grand, il est athlétique.
Il a pas besoin d'être avec personne, Aleister Black. Puis là, on lui colle Ricochet, qui ont deux styles complètement différents, deux personnages complètement différents également.
À SmackDown, la grosse promo de Kevin Owens qui nous explique qu'il est avec nous. Maintenant, c'est un gentil.
Ben oui, parce qu'on n'était pas sûr, Kevin, après son retour la semaine passée. Puis ça, je veux t'en parler. Parce que, pour vrai, je trouve qu'on a manqué le bateau avec le retour de Kevin Owens.
Ah.
Kevin Owens était un heel quand il est parti, mais c'est un heel que la foule aime aime détester. Et là, il revient après 4 mois de blessure. Tu le sais, n'importe qui revient d'une blessure, la foule capote pour ces gars-là tout le temps. Et là, ils le font revenir contre, dans le fond, il prend la place de Kofi Kingston. Kofi qui avait le buzz, là.
Ouais.
Tout le monde, il y avait un gros buzz autour de Kofi. Et présenté par Mr. McMahon, Vince McMahon, qui est heel en ce moment.
C'est un gros méchant, là.
Donc, je trouve qu'on a manqué notre coup. Ça aurait été beaucoup plus efficace de faire venir Kevin Owens directement contre Daniel Bryan avec un juste sa musique. La foule l'aurait pas vu venir. Il y aurait eu un gros pop. Puis là, au pire, tu trouves une façon que McMahon sort puis qu'il le mette dans le match au lieu de Kofi.
Je trouve qu'il s'en est bien. Il s'en est bien sorti avec sa promo. C'est une longue promo.
Ouais.
Daniel, il était en forme aussi. Si vous avez la chance d'aller voir la promo que Daniel Bryan a faite sur le WWE.com, man, c'est magique. Ce gars-là, au micro, c'est un vrai méchant, c'est un vrai heel. Il fait sa job, puis il est capable de nous vendre n'importe quel combat. Samoa Joe, champion des États-Unis. Moi, je vais te dire une chose. J'adore le personnage en ce moment de R-Truth, qui est fan fini de John Cena. Je trouve qu'il y a personne d'autre que lui qui peut rendre ça divertissant. C'est pas quelque chose qu'il peut garder pendant 3 mois, mais je trouve que pendant les 2-3 semaines qu'il l'a fait, c'était le fun. Ils ont arrêté ça au bon moment. Le Samoa Joe a le titre, et moi, je serais pas étonné de voir Samoa Joe contre John Cena à WrestleMania.
Moi, je suis d'accord avec toi dans la mesure où on voit pas R-Truth et Carmella la semaine prochaine. Pour vrai, là, c'est pénible. C'est fini. Il y a 47 ans. Reste chez vous, Ron. Et Carmella.
De quoi qu'il parle?
Carmella, quand elle était championne, c'était genre, tu voulais pas l'avoir avec le titre, là. Carmella, c'est une meilleure gérante, une meilleure valet qu'une lutteuse. Carmella dans le ring, à vous.
Non, mais je te dis pas que Carmella dans le ring, elle a sa Elle est avec Charlotte puis Becky, mais
elle est pas avec genre 50% de Charlotte.
Non,
là.
Je sais. Sauf que elle a eu son run, elle a eu, je pense, 6 mois le titre.
Hey,
fine, c'est correct. Tu sais, le storyline était pas super, mais ça n'est quand même bien sorti selon moi pour ce qu'ils lui ont donné. Maintenant, R-Truth.
Je pense que c'est pas une question de booking, Carmella, c'est une question de talent. Mais Samoa Joe, par contre, je suis super content. C'est son premier titre, ça. Là, j'en revenais pas.
Quand
je l'ai vu, je l'ai même googlé pour être sûr. Là, il me semble que c'est son premier titre. Puis comme de fait, à part le titre d'NXT, c'était vraiment son premier titre à la WWE. Et écoute, ce gars-là a tellement de talent. Puis son personnage de heel, là. Un des meilleurs heels de la compagnie avec
de la WWE.
Daniel Bryan, là, mais un des meilleurs heels naturels.
Par contre, non, je sais qu'il faut aller dans les prédictions de Fastlane, mais arrête de manquer de respect à R-Truth. R-Truth a sa place dans cet alignement-là. C'est backstage. OK, tu vas me dire que Ascension a plus sa place que R-Truth? Tu vas me dire que Zack Ryder a plus sa place
non.
que... Il y a une liste de au moins 20 gars.
Non, il fait partie de ces 20.
Non, il fait pas partie... en tout cas, Fastlane.
T'as-tu vraiment défendu R-Truth pendant genre une minute pleine?
Man.
Une minute qu'on retrouvera plus jamais
Man,
dans nos vies. Je te dis ça de
même. C'est quoi Fastlane? Prédiction de Fastlane.
Donc, c'est à votre tour. Non, mais attends une minute. Je vais m'adresser à ceux qui nous écoutent. C'est à votre tour de me dire sur Instagram, Pat Laprade, Kevin Raphaël 21, Instagram, Twitter. Dites-nous, là, R-Truth, là, c'est-tu le temps de donner son 4%?
Donner
une belle montre
man.
En or et de dire, prends ta retraite, Ron. C'est le temps. Fastlane, Kevin.
On s'en va sur Fastlane.
J'ai hâte
à Fastlane. D'habitude, Fastlane, c'est comme le stop-gap plate qui arrête toutes les histoires, mais je trouve que cette année, ils ont monté un show où ça fait avancer les histoires. On va y aller match par match.
Mais par contre, ça fait en sorte qu'on est à un mois de Mania puis qu'on sait toujours pas
on
la
pas
carte
la carte
de Mania.
Ouais,
fait que c'est un peu... C'est, ouais. Ça a du bon puis du mauvais, là.
En pre-show, je suis tellement déçu que ce match-là soit en pre-show. Ce match-là, je le voyais à WrestleMania dans un masque cheveux contre masque. Mais hey, tu sais quoi? On va l'avoir en pre-show. Ça va être un bon match. Andrade plus Cien Almas. Andrade affrontera Rey Mysterio. Qui gagne? Comment?
On parlait de Valet, là, Zelina Vega.
Elle est
excellente. Excellente dans son rôle. Moi, je pense qu'on va mettre Andrade over. Il a dit qu'il était pas content de son utilisation.
Mais
et de ce qu'on voit, ben, à partir du moment, c'est ainsi que la WWE veut tellement pas perdre de bons lutteurs au profit de, entre autres, All Elite Wrestling, dès que tu chiales un peu, ben, tu te fais donner une coupe de série de victoires. Je pense qu'Andrade va aller over. Et les pre-shows, Kevin, là, souvent les pre-shows sont excellents.
Moi, je les écoute
toutes. Buddy Murphy, là, il y a eu d'excellent combat en pre-show. Champion de 205 Live. Donc, Andrade Rey Mysterio, gros match.
Moi, je vais aller avec... Puis là, nous, on va me donner nos prédictions. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos prédictions. On va les comparer. Et moi, je veux qu'à la fin de l'année, on puisse calculer c'est qui a le meilleur pourcentage de victoire entre Pat Laprade, l'historien, blablabla. Je fais des films. Puis K.R., Kevin Raphaël, l'animateur du Kevin Raphaël Show. Donc, moi aussi, je vais avec Andrade Cien Almas.
En autant que tes amis, Joanie, Ludivine et compagnie, te conseillent pas dans tes choix,
man,
on va être correct.
Les Usos vont affronter Le Miz, mon Miz, et Shane McMahon pour les titres de SmackDown par équipe. Les Usos, cette semaine, ont eu la meilleure...
Pour ceux qui savent pas c'est qui en passant, Shane McMahon, c'est Shane McMahon. C'est le fils de Vince McMahon.
Shane McMahon.
Le frère de Stephanie McMahon.
Ma boss. Les Usos ont eu la meilleure promo cette semaine. À chaque fois...
Ça, c'était bon.
C'est du bonbon, les écouter.
C'était bon.
Puis, tu sais, quand on parle de pas leur donner un script, je pense pas qu'on leur donne un script. Je pense qu'on leur dit ABCDE.
Non,
dans le sens que on leur dit voici où je veux que t'ailles et voici la fin. Je pense que ces gars-là sont inclus dans le processus de création de leur promo, puis ça apparaît dans le ring, puis ça l'a paru cette semaine à SmackDown.
Ils sont capables, je suis pas sûr qu'ils sont inclus, mais en même temps, c'est sûr que bon,
c'est
ils
sûr
font
que
partie,
oui.
ils font
y a
partie
des référents que...
mais en même temps, ils ont une façon de livrer les promos, là. Ils sont vraiment divertissants.
Je vois beaucoup les Briscoes en fait, je voyais beaucoup les Briscoes et là, ils ont trouvé leur propre couleur à eux.
Oui. Non,
toi, qu'est-ce qui se passe, ils vont gagner? Usos ou Shane McMahon et Miz?
Ben, moi, je pense que c'est les Usos parce que je pense qu'on va voir le split de Shane McMahon et du Miz.
Surtout que c'est à Cleveland, le père du Miz va être en première rangée, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Du côté des championnats par équipe de Raw, The Revival va affronter Aleister Black, Ricochet et Bobby Roode, Chad Gable. Donc, qui va remporter ce match-là? Je peux pas croire que Revival va perdre.
Moi, je pense qu'on va protéger Revival, puis on va envoyer Ricochet et Black sur Rude et Gable pour gagner les titres. Moi, je pense qu'on va leur donner les titres. Ils sont invaincus depuis qu'ils sont arrivés à Raw, et je crois vraiment qu'on va aller là.
Rien n'empêche que Rude et Chad Gable peuvent prendre le pin dans ce match-là. Moi, je pense que Revival ne peuvent pas. Ces gars-là, c'est le meilleur tag team au monde, selon moi. C'est, oui, il y a les... Ou sont dans les top 3. Ils sont dans le top 3 avec The Young Bucks, Usos, puis on peut mettre Revival. Je sais pas c'est quoi ta conversation que tu essaies d'avoir avec moi, Pat Labrad, là.
OK, les Lucha Bro. Penta, puis Phoenix.
OK, ils sont top 4. Ils sont dans le top 4.
Je t'ai même pas nommé une équipe au Japon, là, encore. Là.
Mais qui dans... qui au Japon? Les Roppongi 3K?
Peut-être pas les Roppongi 3K. Peut-être pas ça, par contre.
Moi, j'y vais avec le... J'y vais avec le Revival.
Moi, j'y vais avec Black et Ricochet.
Ouais,
hein.
C'est bon. OK. Donc, The Boss and Hug Connection face à Natalia pour les titres féminins
face
par
équipe. Face à Natalia, face à Nia Jax et Tamina.
J'ai-tu dit Natalia?
T'as dit Natalia?
Je sais pas les, man.
C'est pas les.
Face à Nia Jax puis Tamina.
As-tu vu à NXT, Kevin, le retour de Sasha Banks et Bayley?
Oui.
C'était tellement... Oui. Hot. La foule, vraiment là, contente de les voir. Izzy, la fan qui avait 8-9 ans à ce moment-là, qui est genre rendue à 12-13 ans, j'imagine. Qui
fait de la lutte, hein? Fait de la lutte, Izzy.
Elle pleurait de voir Bayley. C'était la réaction pour Bayley.
Ouais.
Ça, c'est de valeur parce que c'est une réaction que la WWE sur le main roster ont droppé. Ils ont jamais été capables
De le transférer.
Exact. Jamais. Puis ça, c'est de valeur parce que Bayley aurait pu être vraiment une plus grosse star qu'elle est. Et, ben écoute, mon choix à Elimination Chamber, c'était Jax et Tamina parce que je pensais qu'on voulait aller à Mania, le chase pour les titres.
Okay.
Écoute, là, je suis comme moins sûr de mon choix, mais je vais encore y aller avec Jax et Tamina parce que je crois qu'on va vouloir y aller avec le match revanche à Mania et leur redonner une victoire babyface à Mania.
Moi, la seule raison pourquoi je le donne à The Boss and Hawk Connection, il faut que Sacha arrête de perdre les titres 4 semaines après les avoir gagnés. Là.
Ça, c'est un bon
point.
Ça n'a
aucun bon sens.
Bon,
je pense que les filles, pour builder cette division-là, tu builds ça sur le dos de Sacha, sur le dos de Bayley. Oui, moi, je crois au Chase. Je crois au big WrestleMania moment. Mais
c'est parce que sinon, t'es envoies championne à Mania contre qui?
Contre Mandy Rose et Sonya Deville. Moi, je trouve que Mandy Rose et Sonya Deville ont pris une coche depuis un mois. Puis je... Tu sais, on a vu beaucoup de victoires de Mandy Rose dernièrement. Je pense que d'avoir un match Raw versus SmackDown, t'as déjà les gentils contre les méchantes. Moi, je trippe à la possibilité de ce match-là.
OK.
Asuka face à Mandy Rose pour le titre féminin de SmackDown.
Y a pas de débat là-dessus, là, Asuka.
Non, je pense que
le titre, je sais juste pas où on envoie Asuka à WrestleMania.
Mais je pense que ça va être un match avec plusieurs filles. Je pense que Asuka va défendre son titre face à genre, c'est quoi son nom?
Mandy Rose?
Naomi.
Ah, Naomi.
Naomi. Je pense qu'ils vont dropper Iconics là-dedans. Je pense que ça va être un match à plusieurs femmes.
Carmella
peut-être. Donc, je pense que ça va être ça. Je trouve qu'ils gèrent mal Asuka pour vrai. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils font avec elle.
Ils donnent un gros. Ben, en fait, c'était un accessoire dans la rivalité.
Ouais,
Lynch, Charlotte,
c'est triste.
Ronda. Mais pour une fille qui a gagné quand même le premier Royal Rumble féminin de l'histoire. Mais tu sais, les Japonais, les Japonaises, c'est malheureux, mais la WWE a beaucoup de difficultés à les booker correctement. Puis on le voit avec Shinsuke Nakamura qui est, ma foi, même pas sur la carte là, qu'on a
c'est
en ce moment.
C'est vrai, avec Rusev non plus. Ouais. Charlotte Flair contre Becky Lynch. Si Becky gagne le match, elle s'en va à WrestleMania pour le Triple Threat match. Si Charlotte remporte le match, Becky Lynch s'en va chez eux et n'ira pas à WrestleMania.
Bon, ben évidemment, Becky Lynch gagne parce que c'est clairement un triple threat
le main event
en finale
aussi.
De WrestleMania. Oh ouais. Par contre, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va travailler le match parce que Becky arrête pas de vendre une blessure. Là, on s'entend, là, pour ceux qui nous écoutent, là, elle n'est pas blessée.
Mais non.
0-0-0.
Mais elle vend bien, par
elle
exemple.
Vend très bien. Elle vend très, très bien. Donc, j'ai bien hâte de voir ce match-là qui avait été excellent à Evolution. En three-way avec Asuka qui avait été aussi très, très bon au mois de décembre. Donc, bien hâte de voir ce match.
Shield, la réunion pour la 154e fois du Shield face à ton barman Corbin, Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley.
Écoute,
Je sais pas, moi.
Pour vrai, là, Corbin, McIntyre, Lashley, ajoute Elias là-dedans, là.
Ouais.
Ça me fait penser, on dirait, une deuxième League of Nations.
Ouais!
C'est quatre gars.
On
sait pas quoi faire avec eux. On veut pousser un peu plus McIntyre, mais en même temps, Corbin prend beaucoup d'espace dans l'équipe. Puis c'est quatre gars qui ne fitent pas ensemble, qu'on a mis ensemble quand même. Ben, écoute, moi, si Shield va pas over.
Ça m'étonnerait pas de voir. Moi, je vais avec Corbin, Drew McIntyre et Lashley, parce que ça m'étonnerait pas de voir Dean Ambrose prendre le pin.
Ah, OK, ouais.
Puis comme ça, tu gardes McIntyre strong, tu gardes Lashley strong.
Le premier match de Roman,
il perd.
Ah non, j'ajoute pas. Non, ils vont vendre moins de t-shirts, faut qu'ils vendent des t-shirts. Écoute, dans la seconde qui a suivi son retour à Roman, il y avait des emails envoyés pour son nouveau t-shirt. Kevin a un nouveau t-shirt en passant. Je sais pas si tu l'as vu.
Non, j'ai pas vu encore.
C'est le logo de Fastlane, mais c'est marqué KO Show, comme le Fastlane est sur WWE.com.
Daniel Bryan face à Kevin Owens pour le titre de la WWE. Et moi, je vais t'expliquer qu'est-ce que je pense qui va arriver. Je pense que le New Day va venir mettre le bordel dans ce match-là et qu'il n'y aura pas de gagnant, pas de perdant.
Ben, moi, je pense sérieusement qu'à WrestleMania, on pourrait avoir un three-way.
C'est ça.
Daniel Bryan, Kevin Owens, Kofi Kingston. Donc, oui, une intervention. C'est sûr qu'à quelque part, Kofi va être là-dedans. Minimalement, c'est Kofi et Daniel Bryan à WrestleMania.
Ouais.
Ils ont fait un switch. Oubliez pas, là, c'est ça qui est arrivé. Le retour de Kevin a été précipité.
Ouais.
Ça devait être Kevin Owens contre Daniel Bryan à WrestleMania. Il va faire son retour à WrestleMania. Les vignettes qu'on voyait de lui, c'était justement des vignettes où ce qu'il mangeait un peu du fast-food, tout ça. Justement,
il était
parce
le everyday man.
Ben oui, puis justement, parce que Daniel Bryan, lui, est tellement écolo, puis vegan et tout ça. Et là, on a switché les choses, on a précipité son retour, et on a décidé de mettre Kofi avec le buzz qu'il avait à WrestleMania avec Daniel Bryan au lieu de la Fastlane. Mais ça pourrait être un three-way. Ça pourrait être facilement.
Donc, toi, tu donnes la victoire à Kev par disqualification?
Ben, écoute, il pourrait ne pas y avoir de gagnant. Il pourrait.
Okay, on va mettre no contest.
No contest.
Rapidement, Pat, à chaque semaine ou à chaque deux semaines ou whatever qu'on va
à
être là.
Chaque émission,
on va avoir une éphéméride de Pat Laprade sur un événement historique dans le monde de la lutte. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je veux vraiment l'entendre, celle-là, parce que j'ai hâte.
Le 7 mars 1999, il y a 20 ans, Kevin, c'était les débuts à la télé pour la WWE de Kurt Angle.
Ah, no way!
Ouais, Kurt Angle dans un storyline assez moyen. T'avais Tiger Jeet Singh, qui est un Canadien, mais qui jouait le personnage d'un Indien, Jinder Mahal.
Ah, Jinder Mahal.
Oui, d'un Indien, de l'Inde.
Ouais.
Et puis, il fait un challenge. On est à Pittsburgh, la ville de Kurt Angle. Il fait un challenge. Je donne 500$, je donne 2000$ à quelqu'un qui va venir se moucher dans le drapeau américain. Et là, il challenge Kurt Angle, qui est première rangée. Angle, évidemment, qui arrive, on est 3 ans après les Olympiques d'Atlanta, arrive dans l'arène et fait semblant de se moucher dans le drapeau américain. Finalement, Jeet Singh se revire, il est de dos à Angle, il prend le drapeau de l'Inde et il se mouche dans ce drapeau-là.
Oh.
Et là, ensuite, l'autre, il l'attaque avec le drapeau américain. Angle, il fait un belly-to-belly, un judo throw. Et c'était les débuts télévisuels d'Angle qu'on n'a pas revu après ça avant des semaines et même des mois, parce que bon, il a appris à Memphis, puis il faisait plus des dark match, mais ça a été vraiment les débuts, donc c'était mon éphéméride.
Kurt Angle
de l'émission
contre Jerry the King Lawler.
Oui.
J'ai trouvé ça dernièrement, c'est comme c'est donc bien bon. Pour un gars qui commençait
à Memphis,
il était vraiment hot. Hey, c'est ce qui m'a fait à l'émission, Pat.
On a
jasé de lutte pendant genre 45 minutes.
Puis on s'est quand même pas trop entretué.
Ben, Torrey Wilson, moi, je comprends pas de quoi tu me parles.
Ben, évidemment, on voit tes weaknesses.
On va
travailler là-dessus. On a d'autres shows, Kevin, pour travailler là-dessus. Fais-toi-en pas.
Donc, là, la façon la plus facile de nous trouver, iTunes, Spotify, Google, n'importe où. Tu peux l'écouter dans le métro, à ta job en cachette et... chez tes parents? Tu l'écoutes chez tes parents des fois, notre podcast?
Ben non.
J'ai écrit une ligne, mais je suis pas capable de me relire, j'écris mal. Fait que,
t'as écrit la ligne de dire, t'as écrit, là, si tu pouvais l'écouter partout où t'écoutes tes podcasts.
C'est exactement ça, je voulais dire.
Je sais, je suis ton meilleur scripteur au monde.
Oubliez pas de nous donner 5 étoiles sur les différentes plateformes. Laissez-nous des commentaires. On veut vous lire, puis on trouve ça vraiment le fun d'avoir l'opportunité, en fait, de nous créer cette opportunité-là de pouvoir connecter avec les fans de lutte. Puis, continuez à nous suivre.
Ben oui, ben justement, parce que sur Twitter, sur Instagram, Pat Laprade, Kevin Raphaël 21, dites-nous vraiment ce que vous pensez, écoutez-nous, les liens vont être là, et puis dites-nous là ce que vous avez pensé du show, venez parler de lutte avec nous, ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, moi je réponds, Kevin pas tout le temps,
mais
il aime ça vous lire,
moi je réponds pas tout le temps, mais je lis tous vos messages, même les messages de vagabonds.
Hey, c'est déjà tout Kevin, on vous dit à la prochaine fois, c'est un rendez-vous pour les antipodes de la lutte.